Vous êtes sur RTL.
On refait le match sur RTL.
Avec Christian Olivier.
Bonjour, bonjour ou bonsoir à toutes et tous. On fait le match 8e de la saison et comme chaque samedi soir, le meilleur de l'expertise et du décryptage pour tous les publics. Avec, vous le savez également, respect, bienveillance, bonne humeur, rires et sourires. Alors pas de Ligue 1 et pas de Ligue 2 ce soir en raison de la séquence internationale. Ce sera d'ailleurs demain sur l'antenne de RTL et devant les caméras de M6. France, Portugal, il en sera question ce soir. Avec tout de même une certaine qualité chez les jeunes bleus et le 7-1 de mercredi face à l'Ukraine, problème, comment manager deux équipes de France qu'il est possible de construire sans la moindre anicroche avant l'Euro 2021? Car faut bien le dire quand même, hein, les footballeurs ont les dents qui raillent la pelouse. Eh bien, on essaiera de répondre à cette question à partir de 19h. À 19h30, les extravagances de Monsieur Wenger. Avec des propositions de nouvelles règles, un peu bizarres, faut bien le dire. Ce qui a d'ailleurs fait réagir Michel Denisot sur Twitter. Et pourquoi pas un ballon carré, a-t-il écrit. On se posera, nous également, la question. On n'oublie pas les célèbres tirs au but, c'est la nouveauté dont refait le match. Mais dans un court instant, l'explosif dossier Mediapro Football français avec des infos, des dernières infos, peu rassurantes, faut bien le dire. Et une question, le football français va-t-il mourir à petit feu? Avec moi, Philippe Sanfourche, chef de la rubrique foot de RTL. Bonsoir,
bonsoir
Philippe.
Bonsoir Christian, bonsoir à tous.
Dominique Sévrac,
oui, présent.
Du Parisien.
Bonsoir Christian.
Aujourd'hui en France, bonsoir,
bonsoir
Dominique. Xavier Barré, expert du foot international et spécialiste du foot institutionnel.
Salut Christian, bonjour.
Salut
à tous.
Salut comme présentation Xavier, bonsoir.
C'est très flatteur, merci.
Et Florian Gazan, pilier.
Ah oui,
RTL.
Ah oui, oh, oui. Petit pilier, pilier très fin. Bonsoir
pilier
Christian, bonsoir à tous.
On fait le match et que vous retrouvez chaque samedi matin, chaque samedi matin pour la grosse cote dans le journal de 8h. C'est une chronique foot, info, détente, amusante et bienveillante. Bonsoir Florian.
Bonsoir.
Émission 100% interactive, vous le savez, réalisée par Lucas Dindeleu, filmée sur RTL.fr ou via la toute nouvelle application de votre radio amplifiée. A tout de suite, vous écoutez RTL et vous avez bien raison.
RTL, on refait le... On refait le match.
Christian Olivier sur RTL.
Et dans le studio, Philippe Sanfourche, Dominique Sévrac, Florian Gazan, ouais. Xavier Barré. Ouais. Messieurs, soyons sérieux, l'heure est grave. Le football français va-t-il mourir à petit feu? Rappel des faits cette semaine. Rome Roures, le président, le patron de Mediapro, annonce vouloir refuser de régler ce qu'il aurait dû régler il y a 3-4 jours, la deuxième échéance, à hauteur de 172 millions d'euros pour les clubs français, pour la Ligue. Il réclame une renégociation globale sur les 4 saisons qu'il a signées. Par saison, 814 millions d'euros pour la Ligue 1, mais également pour la Ligue 2. La Ligue a refusé tout net par voie de communiqué. Voilà pour les faits. Nouvel éclairage et information guère rassurante ce matin dans le journal L'Équipe. C'est l'interview donnée par Vincent Labrune à notre ami Étienne Moiti. Il y a eu 2 questions et 2 réponses sur cette actualité de la semaine et des réponses qui sont effrayantes. En substance, Vincent Labrune nous dit que cela évidemment entraîne la relation de confiance, que les actionnaires chinois à hauteur de 53% qui détiennent Mediapro ne peuvent tout de même pas ignorer les besoins de financement de Mediapro. Cela pose des questions également sur le projet de Mediapro en France, ajoute Vincent Labrune. Et la conclusion, si je n'étais pas inquiet pour les finances de nos clubs, je serais irresponsable. Avec cette situation, est-ce que vous êtes inquiet pour l'avenir du football français?
On est obligé de l'être, Christian, c'est évident, comme Vincent Labrune le fait de manière un peu transparente, tant que ce soit possible sur cette question-là. On est face à une situation qui est déjà compliquée, mais qui se complexifie du fait qu'il y a eu un changement de direction à la Ligue, que Vincent Labrune hérite d'un contrat qu'il n'a pas lui-même mis en place. Donc, il veut pas dégommer, en gros, Didier Quillot et l'équipe précédente, mais il fait quand même bien passer le message que il n'y avait pas de certitude sur la solvabilité de ce nouvel acteur. Il nous fait bien comprendre que si l'actionnaire veut pas payer, en gros, on n'aura pas les sous. Donc il acte bien l'idée qu'il n'y a pas de garantie bancaire, que c'est uniquement par rapport à l'actionnaire que ça peut se passer. Tout ça est un peu technique, mais ça montre qu'en fait, c'est un... Ce milliard dont on a parlé depuis des années, il repose un peu sur un château de cartes.
Il a raison de faire ça, Philippe, parce que c'est quand même incroyable que pour un contrat donc de 3 milliards 2 sur 4 ans, parce qu'il y a le contrat 1 milliard, il est aussi complété par Bein Sport qui a revendu à Canal, par Free. Donc en tout, ça fait 1 milliard 2 par saison. Mais la part de Mediapro, c'est que 800 par saison pour sur 4 ans. C'est quand même incroyable que la Ligue ait pas pris des garanties bancaires, ait pas demandé des garanties bancaires en Italie. Quand ils ont senti que c'était ça sentait mauvais, les Italiens ont dit on ne vend pas la Serie A à cet acteur Mediapro. Voilà, donc eux au moins on fait le taf, quitte à recevoir moins. C'est quand même dingue que des gens qui partent avec 1,5 million de parachutes dorés, donc Didier Quillot, argent qu'il prend sur le contrat Mediapro d'ailleurs, j'imagine. C'est comme ça que la Ligue lui donne ses indemnités. C'est quand même incroyable qu'il n'ait pas demandé de garantie bancaire. Moi je suis étonné, ouais. Je tombe de l'armoire. Quand je vois un tel amateurisme...
On fait un premier tour de table et ensuite on découvrira la discussion en
quatre. Vous connaissez beaucoup de contrats à 3 milliards d'euros par an, vous ? Ouais. Il n'y a pas beaucoup des contrats à 3 milliards d'euros en France.
Jean Gazan.
C'est quand même dingue.
Non, mais ce qui est surtout hallucinant, c'est que ça montre une nouvelle fois quand même que le football français est dirigé, et dans toute sa splendeur, aussi bien les clubs que le reste, par des gens qui ne sont pas toujours très compétents. Parce que là, on met tout sur le dos de Didier Quillot. Ok, il a signé ce beau contrat, il l'a agité, il était content. Mais enfin bon, il ne l'a pas signé tout seul dans son coin. Les autres dirigeants du football français qui sont dans les différents conseils d'administration étaient au courant des différentes propositions. Donc le fait qu'il n'y ait pas de garantie bancaire, qu'on ait un nouvel acteur entrant qui certes proposait beaucoup d'argent mais offrait peu de garanties, ils en sont également responsables. Donc il ne va pas falloir se plaindre d'avoir pris la mauvaise décision en fait.
Alors ce qui est assez étonnant d'ailleurs, c'est que sauf erreur de ma part, ceux qui ont signé ce contrat sous l'égide de Nathalie Bois-de-la-Tour, Didier Quillot et les présidents de club, absolument, sont en poste actuellement, le directeur général exécutif Monsieur Rouget et son adjoint Monsieur Fricot, qui vont devoir... Oui. Qui vont donc devoir remettre
Ils n'avaient pas les mêmes responsabilités.
Ouais, mais eux, ils avaient de belles responsabilités.
Arnaud Rouget s'occupait surtout des compétitions, qu'il organisait d'ailleurs très bien, mais tout ce qui était négociation des droits télé, moi j'y étais quand ils avaient annoncé ce fameux contrat le jour de l'appel de la négociation, puisque ça se passait, c'était en 2018 là, dans le centre de Paris, et vous aviez Jean-Michel Aulas, Jacques-Henri Hérault et tous les présidents de clubs qui étaient là, grand sourire, à se taper dans les mains après cet appel. C'était une des enchères, ils avaient ouvert les enveloppes, et puis bon, ils avaient ce nouvel acteur, Mediapro, qui arrivait, ils étaient tous super contents.
Mais ils étaient au courant, donc
ils étaient contents, après on a commencé à poser les questions. On a commencé à poser les questions, et notamment notre ami Étienne Moati pour l'équipe. Est-ce que vous avez les garanties bancaires, etc., etc. Non, mais il n'y a pas de raison. C'est un acteur sérieux. Alors c'est vrai qu'en Espagne, c'est un groupe bien installé, mais qui n'a pas qui diffuse pas tous les matchs du championnat comme c'est le cas maintenant. Et à ce moment-là est arrivée l'alerte de l'Italie, que rappelait Dominique Sévrac. Est arrivée l'alerte que les Italiens, finalement, qui leur avaient vendu les droits télé, après une procédure judiciaire, eh bien, sont revenus dessus.
Alors.
Et donc en France, on a laissé faire ça pendant 2 ans. C'est pas inquiété plus que
ça. Quand ils ont dit qu'ils allaient vendre leurs produits à 25 euros, 80%, ils ont 80% de la Ligue 1 pour 25 euros. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, on est en séquence internationale, comme vous l'avez rappelé, donc il n'y a rien.
Alors,
on paye 25 euros pour rien.
On va essayer de s'organiser dans cette conversation avec quatre thématiques, parce qu'il y a un emprunt également qui est mis en place.
Il faut bien compenser, oui.
Ouais, on va parler de cet emprunt qui, pour l'instant, on va se poser la question de savoir s'il n'y a pas un coup de bluff de la part de Mediapro, parce que ce n'est pas un Mediapro, hein, c'est une multinationale, multi-internationale, qui a échoué en Italie, qui marche bien en Espagne, avec une chaîne, c'est une agence quand même solide. Les scénarii à venir, et puis peut-être aussi des solutions. Mais en amont de ce contrat qui avait été signé, moi j'ai le souvenir quand même d'une petite phrase qui n'était pas franchement off, pas franchement on, mais il y avait quand même 10 journalistes autour d'une table de déjeuner de Bernard Caiazzo, président de la Première Ligue.
Donc c'était on.
Qui, quelques semaines après, s'interrogeait quand même sur la solvabilité. Mais je me souviens, moi, avoir fait un tweet que je n'arrive pas à retrouver, j'en fais tellement. Tout de suite, j'avais eu un coup de fil de la Ligue du football professionnel et de son service communication pour dire, mais Caiazzo a dit ça dans quelles conditions? Il s'appuie sur quoi? C'était un tête-à-tête? Non, c'était les fameux déjeuners de Bernard Caiazzo, président de la Première Ligue, qu'il donne assez régulièrement avec certains journalistes.
Ah bah, j'ai pas été invité, déjà.
Donc, ça faisait part des craintes des dirigeants du foot français.
Après avoir signé, après avoir accepté, après avoir dit que tout était formidable avec ce contrat à 1 milliard.
Ouais. Oui, bah oui, ah oui.
Mais le problème aussi de cet appel d'offres, c'est que les autres, Bein Sports et Canal+, Canal+ ayant perdu le lot 1, c'est-à-dire le lot 1, c'est le lot plus important, celui où il y a les PGOM, ils ont essayé de faire capoter l'appel d'offres après, en refusant de surenchérir, en faisant des propositions à zéro. Mmh. C'est-à-dire qu'ils ont piégé la Ligue à l'époque, qui était un peu obligée de le donner à Mediapro. Mmh. Non seulement vous recevez un milliard, mais en plus, les autres font pas d'offres. Donc, vous êtes un peu piégé. C'était de donner à Mediapro ou rien du tout, en fait.
J'insiste, Mediapro n'est pas un nain.
Oui, oui. Mmh.
Il y a une pandémie. Toutes les sociétés sont logées à la même enseigne, doivent faire des économies, doivent renégocier des contrats. Ça existe partout, messieurs.
Ouais,
mais, veux dire, le football n'est pas une petite, comme ça, une petite île.
Le Covid à bon dos, dit Christian. Oui,
mais le Covid à bon dos, les rentrées publicitaires sont moins nombreuses. Okay. La crise est là. Mais
justement, il y a personne
dans les
stades.
Les gens perdent leur emploi.
Il y a personne dans les stades, donc ça devrait pousser les gens à s'abonner.
Alors, est-ce que c'est la question, considérant que Mediapro est quand même un acteur puissant dans le monde du football, est-ce que ce n'est pas un coup de bluff?
Ça peut l'être. Ça peut l'être parce que ce qui est certain, c'est qu'il n'y a pas besoin d'avoir fait la chaussée et d'être un spécialiste de l'économie mondiale pour savoir que quand on rentre comme ça dans une activité sur 4 ans, stratégiquement, il y a un planning. Et la première année, elle est de fait déficitaire. Et là, on a des chiffres qui peuvent osciller entre 250, 300 peut-être. Mais de toute façon, quoi qu'il arrive, Mediapro ne pouvait décemment pas imaginer qu'au 17 octobre, ils auraient déjà 1,5 million ou 2 millions d'abonnés.
De toute façon, donc, il faut 2,5 millions, je crois, pour qu'ils soient...
3,5 millions. Donc, crise ou pas crise sanitaire...
Et encore, c'est minimum. Selon mes informations qui n'ont pas été commentées, mais qui n'ont pas été démenties également, les vrais abonnés avec la boxe et qui regardent ce programme devant la télévision sont au nombre de 278 000. Mais on ne compte pas, et là, ça a fait gonfler le chiffre également, ce qu'on appelle les volatiles, c'est-à-dire ceux qui sont abonnés par téléphone, sur
les OTT.
Le Free, ouais. Voilà, exactement, ouais. Sur tablette, etc.
Et là, on est sur l'écume de la vague. Ouais. C'est-à-dire que par rapport aux chiffres dont on parle, c'est 800 millions par an, c'est pas avec les 50 000 de plus ou de moins que ça va faire le nombre.
Philippe, on n'a jamais imaginé être à 1 million
exactement.
Le premier mois.
Donc
coup de bluff.
L'histoire de la pandémie... c'est une façon de rentrer dans le jeu, c'est un argument mais qui ne vaut pas par rapport à une stratégie sur 4 ans. Ils le savaient qu'au 17 octobre, il fallait qu'ils sortent 170 millions et que de toute façon, ils n'auraient absolument pas de rentrée suffisante et qu'il fallait qu'ils les anticipent. Donc ça, pour le coup, c'est un coup de bluff. Après, ce qu'on ne doit pas, ce qu'on ne peut pas mettre de côté non plus, c'est que il est logique aussi que vu qu'il y a l'arrivée d'un nouvel acteur qui est Vincent Labrune, président de la Ligue, qui teste. Il tente le coup pour voir comment ça va réagir. Pourquoi pas? Est-ce qu'on peut pas négocier un petit truc? On va voir que si Vincent Labrune est aussi solide qu'on
mais là,
dit.
Il y a un gros danger, non, messieurs. Pardon, un gros danger. Il y a un problème de communication. Qui va venir s'abonner après une telle communication?
Franchement, ça pue.
je ne sais pas. Si...
Mais non, mais que ça soit du bluff ou pas du bluff, vous dites
c'est
pas
bon signe, évidemment.
La chaîne s'est lancée au cours de l'été avec, en reprenant le nom célèbre de Téléfoot. On s'est dit, ça c'est malin, parce qu'il y a une chaîne construite de nulle part, comme ça, qui sort de terre ex nihilo. Bon, on se dit, au début, ils ont fait des bons recrutements, des journées qu'on a vu passer dans d'autres chaînes. Super. Et là, au bout d'un mois.
Ils ont une belle rédaction. Ils ont signé avec de beaux opérateurs également, sur Canal.
Et au bout d'un mois, en fait, il y a le Covid, il n'y a personne dans les stades, le produit est dégradé.
Donc ne sous-estimons pas.
On ne paye plus.
Ne sous-estimons pas.
C'est pour ça que aux futurs abonnés et au football français, qui est un partenaire sérieux quand même, qui est un partenaire qui attend l'argent, c'est dingue. Moi, je trouve ça dingue.
Donc ne sous-estimons pas ce coup de bluff.
L'argument de Jaume Rouret ne tient pas sur le Covid. Sinon, il l'aurait anticipé dès cet été, puisque la crise, malheureusement, elle date depuis plusieurs mois maintenant.
Mais le contrat a été signé bien avant le Covid.
Mais on est d'accord. Mais à ce moment-là, il aurait dû alerter dès avant le lancement de la chaîne. Il va voir la Ligue. Alors, c'est vrai qu'il y avait des élections en cours. Il y avait une nouvelle direction qui s'annonçait. Donc, il a peut-être préféré attendre aussi. Mais les présidents de club, eux, ils n'ont pas bougé. C'est toujours les mêmes. Hein, donc,
ils disaient même l'inverse à l'époque. C'est-à-dire qu'au moment où il y avait l'éventualité encore possible de reprendre...
Il a dit « je veux bien reprendre les 20 ».
Oui, voilà. Si on reprend le championnat, moi, je veux bien les diffuser.
C'est extraordinaire.
Donc, sur les gazons.
Non, mais de toute façon, ce qui est très bizarre, surtout, c'est la communication. Le fait qu'il n'aille pas discuter en discrètement avec Labrune, qu'il annonce ça à une des journaux, c'est comme quand Tourelle annonce à conférence de presse qu'il n'est pas d'accord avec leur recrutement.
Il a envoyé un courrier, en fait, qui était non négociable.
Soyons prudents, car Mediapro a une force de frappe. Attention au coup de bluff. Derrière la publicité,
si
on parlera...
Christian, c'est désastreux.
Soyons prudents. Après la publicité, on parlera de l'emprunt, car pendant ce temps-là, la Ligue emprunte. Non pas à fond perdu, mais emprunte beaucoup. Il va falloir rembourser derrière. On parlera des scénarios à venir, parce qu'il va falloir quand même agir, et ne pas attendre. Et puis, les solutions. Les solutions viendront peut-être du plus haut niveau. Du château,
c'est souvent,
de l'Elysée.
C'est souvent passé comme ça.
Publicité.
RTL, on refait le match. On refait le match.
Christian Olivier sur RTL.
On fait le match et nous sommes ensemble jusqu'à 20h avec Philippe Sansfourche de RTL, Dominique Séverac du Parisien, Florian Gazan, tout terrain, ainsi que Xavier Barré pour parler de l'avenir du football français. Le football français va-t-il mourir à petit feu ? Question consécutive à l'actualité explosive de cette semaine. Mediapro donc qui ne veut plus payer. Mediapro qui en est peut-être pour l'instant à nous proposer un espèce de coup de bluff, car Mediapro n'est pas un nain. Mediapro est une agence, rappelons-le, qui a une chaîne de télévision en Espagne et qui semble quand même impossible d'imaginer que Mediapro n'ait plus d'argent pour payer le football français. Ça, c'est la première thématique qui a été évoquée avant la publicité. L'emprunt, messieurs, parce que maintenant, il faut vivre. Il faut que les clubs français payent les joueurs. Et on y viendra aussi dans un instant. L'emprunt, donc, après avoir bénéficié d'un emprunt d'État durant le confinement, nouvel emprunt. J'imagine que Vincent Labrune a du biscuit là, parce que j'imagine même qu'il a son banquier.
Je sais pas, mais je peux
parce que les banquiers lisent la presse, écoutent la radio, regardent la télévision.
La première fois, la Société Générale, puisque c'est elle. D'ailleurs, elle est pas loin.
Dominique Séverac,
qui a fait le PGE, donc le prêt garanti par l'État de 224 millions et demi. C'est Olivier Sadran qui l'a trouvé, qui a dû la convaincre le président de Toulouse, l'ex-président de Toulouse. Ça a été très compliqué à l'époque, parce que il voulait savoir sur quelles étaient les garanties. D'ailleurs, ils l'ont gagé sur les futurs droits TV, sur Media Pro. Ils ont dit, on vous remboursera. On vous remboursera bientôt parce qu'on va recevoir bientôt des sommes colossales issues de Media Pro. Donc c'est comme ça qu'on vous remboursera sur la durée. Là. La banque qui va prêter 172 millions pour 20 clubs.
172, c'est pour la deuxième échéance. Mais il y aura encore 4 échéances. La première a été réglée, la deuxième en emprunte, et les 4 autres pour l'année, pour la saison.
Ils vont la garantir sur quoi, les clubs vont dire, qu'est-ce qu'on vous donne en échange? Parce que là, le banquier va vous dire, j'ai lu que Mediapro, il ne voulait plus payer. Donc, c'est quoi les garanties que vous avez?
Sur l'emprunt, c'est garanti par l'État. C'est garanti par nous, par le contribuable, en l'occurrence. Le premier emprunt qui a eu lieu cet été.
On ne donne pas des prêts comme ça.
Le premier emprunt.
Il faut quand même une garantie.
Oui, mais c'est garanti par l'État, comme d'ailleurs, puisque le football français, la Ligue professionnelle, bénéficie des mêmes droits que la plupart des entreprises françaises.
Le premier emprunt, très bien. Absolument. Le deuxième, c'est plus compliqué. Au total, s'il obtient ce prêt, ça fait quand même 400 millions d'euros à rembourser.
Absolument.
Oui. Avant qu'un jour, on efface la dette.
Il va falloir des liquidités de la Ligue du football professionnel tournent autour de 40-50 millions. Donc il va falloir rembourser. Mais quel est le banquier qui va prêter?
Ah bah pas moi. Moi déjà je suis abonné à Téléfoot. Alors là j'ai peur qu'on vienne me saisir s'ils n'ont plus d'argent. Alors ça devient compliqué.
Non mais c'est en cela qu'on disait tout à l'heure.
Vincent Labrune dit qu'il va emprunter, c'est qu'il sait à qui il va emprunter.
Mais qui va pas prêter cet ELM.
Vincent Labrune, fallait bien qu'il sorte du bois pour rassurer tout le monde et qu'il trouve des solutions et qu'il fasse des annonces pour calmer la peur, la crainte générale. Donc il s'est engagé. Ce qu'on sait tous, c'est qu'il y a effectivement situation de crise depuis maintenant 3 jours que attaquent à 7h du mat avec Noël Le Graët. Ils sont devenus très très copains, Noël Le Graët et Vincent Labrune, parce que ça sent pas bon et qu'il faut sauver le football français. Effectivement, il va falloir trouver très vite des garanties. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que, et là on est obligé de faire des hypothèses.
Allez-y.
C'est-à-dire soit Mediapro, effectivement, a tenté un petit coup de poker, un petit coup de bluff pour essayer de récupérer quelques dizaines, quelques centaines de millions. Et effectivement, par rapport à la com qui est envoyée, c'est très étonnant, mais bon, c'est
et
possible.
Revient le meilleur sentiment,
ou soit ils veulent sortir du jeu. Ou soit ils veulent sortir du jeu, et en gros, c'est une façon de dire, eh ben, messieurs de Canal et de beIN, c'est le moment de faire des propositions.
Est-ce que la renégociation est possible? Parce que beIN et Canal vont s'engouffrer également dans cette
brèche. Ils ne pas un milliard. Il y a 4 solutions. Soit Mediapro, c'est un coup de bluff et ils payent. Soit ils renégocient à la baisse, je ne sais pas, moitié moins ou 40% de ristourne.
Pareil pour Canal et beIN.
Soit Canal et beIN arrivent et mettent ce qu'ils veulent mettre, c'est-à-dire pas grand-chose à mon avis. Soit un nouvel acteur, un nouvel opérateur qu'on n'a pas vu venir, comme Mediapro, les GAFA, les Amazon,
jamais ça c'est l'argent, autant d'argent.
Mais ça, c'est toutes les visions optimistes de Dominique Séverac.
Ils ont ça dans la manche, qu'ils ont les GAFA dans les manches.
S'il n'y a rien de tout ça, vous retrouvez avec des clubs qui sont tous en faillite et qui ne peuvent plus payer. Ça va être la grande braderie au prochain mercato. On va vendre tous les joueurs aux autres.
Avant, vous oubliez un petit détail. C'est-à-dire que si, par exemple, on arrive à une cessation de paiement, c'est-à-dire que si Mediapro dit stop, de toute façon, on ne paye plus. Les clubs ont anticipé des budgets sur 1, 2, voire 3 saisons.
Voire plus,
ont des joueurs sous contrat, avec des salaires importants.
Oui.
Est-ce que les clubs vont pouvoir payer leurs joueurs? Les clubs ne peuvent pas payer leurs joueurs, ils n'attendront pas la fin de la saison, Xavier Barré. Les contrats des joueurs, est-ce qu'il n'y a pas une possibilité pour un joueur, vu qu'il n'est plus rémunéré, d'aller voir ailleurs?
On va se retrouver en Turquie.
C'est la règle FIFA, c'est si vous n'êtes pas payé pendant 3 mois, vous êtes libre.
Donc la fin de saison est loin encore. Hein.
Non, mais il y a un mercato cet hiver, au mois de janvier. Mm-hmm. Donc à ce moment-là, là actuellement, voilà, octobre, novembre, décembre, vous pouvez tenir 3 mois.
Il y a un actionnaire qui pourra payer, tout le monde le connaît.
Pardon ?
Il y a un actionnaire qui pourra payer, tout le monde le connaît. C'est le PSG. Neymar, dans 3 mois, ne sera pas libre. Mais les autres, Marseille... Mmh. Ma courte, il va pas allonger François Pinault, Rennes, encore, il va
non,
pas
mais
allonger.
Lyon, qui déjà a dû emprunter en plus Monaco, pour garder son effectif, avec des joueurs qui voulaient vendre et qu'il a pas pu vendre, il risque d'être vraiment.
Il y a 19
vraiment
clubs qui sont menacés.
Le problème, c'est que là, on touche du doigt déjà la fragilité structurelle du foot français. Et c'est peut-être aussi pour ça que nos amis de Média Pro ont peu de scrupules à jouer ce genre de coup de poker. Parce que il y a une telle dépendance, en fait, du média télé et de ces revenus-là, qu'en plus, en période où il n'y a plus de billetterie, avec les rentrées du mercato qui ont été plus faibles que d'habitude, ils sont en position de force. C'est-à-dire que le foot français n'a aucun levier, n'a pas de contrat à l'international, et donc totalement dépendant de ses droits télé, et du coup se retrouve dans une position qui est absolument intenable et de faiblesse.
Les joueurs qui quitteraient donc au bout de 3 mois, c'est le contrat Xavier Barret, et attendraient le mercato, peuvent quitter donc leur employeur qui ne les rémunère plus, et ça ce serait vraiment le scénario catastrophe pour le football français.
C'est un scénario catastrophe, mais donc
vous voulez qu'ils aillent où en plus?
Ils trouveront les employeurs
après,
en Angleterre,
les
en Turquie.
Oui, mais pas tous, Christian, pas tous.
Non, pas tous, bien sûr. Mais les Anglais ont encore beaucoup acheté cet été, même si on s'attend, même si c'est un peu moins que d'habitude. Ils sont presque au même niveau qu'il y a 2 ans, hein, au niveau des investissements sur le marché des transferts. Donc les clubs anglais ont encore de l'argent. Mais vous savez, les droits de la Première Ligue qui sont très chers au niveau national et très chers aussi à l'international, 1,5 milliard dans les deux cas à peu près, ils ont perdu sur la Chine par exemple. Là, or, il se trouve que Mediapro, son actionnaire, c'est un fonds chinois.
57%.
Ouais,
donc il va falloir négocier avec le Parti communiste à Pékin. Hein.
Oui, parce que c'est un régime...
Mais ça appartient à l'État.
Bien sûr, c'est un fonds qui appartient à l'État.
Bien sûr, mais par exemple, la chaîne qui diffusait la Première Ligue en Chine n'a pas honoré ses dernières traites pour la Première Ligue. Donc la Première Ligue a dit qu'elle lui retirait. Mais pour le moment, personne n'est venu racheter derrière... Je crois que c'était 600 millions d'euros par saison. Je crois que personne n'est venu racheter. Donc, même en Chine, ils ont des difficultés. Donc, on n'est pas du tout à l'abri.
Moi, je crois que la plus grande prudence s'impose. Car là, on parle d'un scénario absolument catastrophe. Je n'imagine pas un seul instant que Mediapro n'ait pas les reins assez solides pour continuer d'honorer un contrat. Que Mediapro profite sans doute de la pandémie pour revoir les tarifs à la baisse. Mais je n'imagine pas non plus qu'il y ait une renégociation trop importante. Car Si vous faites une ristourne...
Ah bah vous dévaluez votre...
Mais non, mais c'est pas ça. C'est que vous cassez le dernier appel d'offres. Et là, vous vous retrouvez devant les tribunaux, traîné par Vivendi ou traîné par Bein. Vous cassez l'appel d'offres. Ce n'est pas légal.
Enfin, vous connaissez les tribunaux. Hein, ça va très très vite en France, hein, Christian. Donc le temps que ça se règle, si vous voulez, les clubs se rendent déjà...
C'est vrai que la situation économique mondiale et la situation sanitaire peuvent aussi effectivement être pris en compte. Ça, c'est certain.
Mais Christian a raison. Si vous faites une ristourne de 40% ou 50% sur les droits, vous passez de 800 à 400. À 400, Canal va dire, attendez, moi je prends 400. Puisque Canal n'était pas si loin des 800. Enfin, pour le lot premium, ils n'étaient pas si loin que ça de Mediapro. Ils se sont fait surprendre. Ils ne pensaient pas qu'il y aurait quelqu'un d'autre qui monterait plus haut. Et derrière, effectivement, ils ont laissé tomber.
Et moi, je pense que Canal, Bein et Free hurleraient et déclareraient que cet appel est totalement frelaté, qu'il y a une entente implicite dès le départ. Donc vous imaginez un peu les procès à venir.
Oh là, mais à qui je vais devoir m'abonner, moi?
Alors, derrière 19h, on va continuer un peu sur le sujet quand même. On va mordre sur la thématique équipe de France.
Mordons.
Pour voir s'il y a des solutions qui pourraient venir du plus haut de l'État.
Jupiter.
Ça, ce n'est pas impossible. Suspense. Publicité, 18h58. On fait le match. Dominique Sévrac, Philippe Sanfourche, Florian Gazan, Xavier Barret. Puis les informations de 19h. A tout de suite.
RTL, on refait le.
Les informations de 19h. Alexandre de Saint-Aignan, bonsoir Alexandre.
Bonsoir Christian, bonsoir à tous. Une collision mortelle entre un ULM et un avion de tourisme cet après-midi annonce la préfecture d'Indre-et-Loire. Il y aurait 5 morts. L'accident s'est produit tout près du centre-ville de Loches. Un périmètre de sécurité a été mis en place par les gendarmes. On ne sait pas encore ce qui a provoqué la collision entre les deux appareils. Les opposants à la PMA pour toutes dans la rue. Cet après-midi, plusieurs milliers de personnes ont participé à une 60aine de rassemblements à travers la France. Des rassemblements limités par les restrictions sanitaires. Les participants ont réclamé le retrait du projet de loi bioéthique qui prévoit notamment l'ouverture de la procréation médicalement assistée aux femmes seules et aux couples de femmes. Quatre nouvelles métropoles en alerte maximale depuis ce matin. Les bars sont désormais fermés à Lyon, à Grenoble, Saint-Étienne, à Lille. Ces villes rejoignent Paris et Aix-Marseille. Les restrictions sanitaires sont désormais renforcées dans toutes ces villes. Même tendance en Allemagne où plusieurs villes ont décidé de mettre en place un couvre-feu. À Berlin, tous les commerces devront désormais fermer leurs portes entre 23h et 6h du matin. Des mesures similaires sont également en place à Cologne et à Francfort. Alors que 1000 responsables politiques appellent à une candidature commune pour la gauche à la prochaine présidentielle, l'ancien chef de l'État, François Hollande, souligne qu'il faut d'abord bâtir un programme commun. Ça part sans doute d'une bonne intention, je cite, mais ça n'a pas de portée concrète, selon l'ancien président de la République, qui sera l'invité demain du grand jury RTL Le Figaro LCI entre midi et 13h. Cette fois-ci, il promet d'aller jusqu'au bout. Alain Coq, militant du droit à mourir dans la dignité, lui-même atteint d'une maladie incurable. Il annonce son intention de se laisser mourir un mois après une première tentative avortée. En Corse, 9 personnes viennent d'être mises en examen, notamment pour association de malfaiteurs terroristes accusés d'avoir participé à l'attaque d'une gendarmerie en juillet dernier, visée par plusieurs coups de feu. 3 des suspects ont été placés en détention provisoire. À Strasbourg, plus d'un millier de manifestants pour la paix au Nagorno-Karabakh. Ils portaient des drapeaux arméniens. Un cessez-le-feu est entré en vigueur ce matin sur place entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie. Les deux pays s'accusent mutuellement d'avoir violé la trêve après 2 semaines de combats intenses qui ont fait au moins 450 morts. Iga Świątek, son nom ne vous dit rien, c'est pourtant elle qui vient de remporter Roland Garros. La jeune Polonaise, 19 ans, a battu en finale l'Américaine Sofia Kenin, 6-4, 6-1. C'est son premier titre du Grand Chelem et elle n'a perdu aucun set dans la compétition. Demain, en finale chez les hommes, on aura sans doute un peu moins de surprises. En tout cas, l'affiche a des airs de déjà-vu. Raphaël Nadal contre Novak Djokovic, un duel à suivre sur RTL à partir de 15h demain. Et puis en rugby, le top 14, il y a 2 matchs qui sont actuellement en cours. Toulon-Montpellier, c'est la mi-temps et c'est Toulon qui est en tête 13-6 donc face à Montpellier. Et puis de son côté, le Stade français mène 6-3 face à Agen à la mi-temps. On rappelle que le match entre Castres et Brive a été reporté en raison de multiples cas de coronavirus à Castres. La météo, ça va encore se rafraîchir demain avec des nombreux nuages et des averses, voire même quelques coups de tonnerre l'après-midi, notamment sur le sud-est du pays. On prévoit de la neige sur les reliefs des 1200 mètres d'altitude dans les Pyrénées. Les températures, il fera 11 degrés à Metz, 12 à Tarbes, 13 à Paris, 16 degrés à Perpignan, 17 à Marseille. Il est 19h04 sur RTL. Dans un instant, Christian Olivier, c'est la suite d'On refait le match.
On refait le match sur RTL
avec Christian Olivier.
Le retour d'On refait le match avec Philippe Sanfourche, Dominique Sévrac, Florian Gazan, Xavier Barret. Je vous rappelle qu'il n'y a pas de Ligue 1 ce soir à 20h, séquence internationale. France-Portugal, on en parlera dans une dizaine de minutes. Ce sera demain soir, 20h-23h sur RTL, bien sûr, et devant les caméras d'M6. France-Portugal, Ligue des Nations. On a longuement parlé durant cette première demi-heure, messieurs, de ce dossier explosif, sulfureux, dangereux qui oppose Mediapro, qui ne veut plus payer en apparence ou qui veut renégocier en tous les cas, à la Ligue du football professionnel. On a évoqué toutes les thématiques. L'emprunt annoncé par Vincent Labrune, ça fera 400 millions d'euros de dettes pour la Ligue du football professionnel, qui doit également une petite ardoise au passage à la Fédération française, plus 50 millions d'euros. Laquelle fédération versera ça au football amateur? Ça commence à faire beaucoup. Les clubs s'interrogent à court terme pour savoir comment ils pourront rémunérer leurs joueurs. Le mercato arrive. Est-ce que certains joueurs ne vont pas filocher au mois de janvier? On a parlé des scénarios possibles, impossibles. On a insisté également sur ce coup de bluff Mediapro qui est quand même puissant. Donc attention tout de même à ne pas sous-estimer la négociation que réclame Roures. Les solutions. Est-ce que les solutions ne sont pas des solutions politiques?
Forcément, entre l'État chinois et l'État français, ça va négocier. Le dossier, après avoir poussé les acteurs du football français à s'arrêter, ce qu'a fait Édouard Philippe et Macron, sur la foi, en prenant les avis notamment de Noël Le Graët, de Jacques-Henri Hérault, qui a manœuvré en coulisses pour que le championnat s'arrête, pour finir troisième, parce qu'il y a aussi des acteurs du football français, un jour on donnera les noms, qui ont appelé Canal+ à l'époque pour leur dire arrêtez de payer le contrat de la saison précédente.
Pour être sûr, tout de suite, hein,
pour être sûr,
ah bon,
pour être
pour être sûr.
Non, mais il faut les entendre, les noms. Il faut les entendre.
Bah, ceux qui étaient bien classés, vous voulez que ça s'arrête, ouais. Et ceux qui étaient mal classés, vous voulez que ça continue. Bah, après, vous regardez le classement à la 28e journée, ouais. C'était. Ouais. Bah, vous trouverez les noms assez facilement.
Donc, les gens qui étaient 10, 11e, on ne sait pas trop, quoi.
Et donc, voilà, maintenant, après avoir favorisé l'arrêt de la Ligue 1, bon, Édouard Philippe n'est plus là, mais Macron, lui, est toujours là. Je vois bien le président de la République s'emparer du dossier et passer quelques coups de fil en Chine pour que l'actionnaire à 53% de Mediapro honore ses traites. Ça me paraît peut-être pas tout, mais au moins qu'il fasse pression, quitte à lâcher du lait sur d'autres dossiers chinois. C'est toujours du donnant-donnant. Hein.
Ça me paraît un peu
idéal.
Ouais, c'est une vision assez angélique de la situation.
Bon, ça se passe les
Chinois,
comme ça.
Ouais, mais les Chinois, ils vont pas lâcher ça comme ça. D'abord, on faisait allusion au contrat qui avait été signé par la Première Ligue avec le groupe Suning, qui est un groupe très puissant, notamment propriétaire de l'Inter
chez
de Milan.
Chez les Anglais.
Chez les Anglais, c'était un contrat à 650 millions de livres par saison. La Première Ligue s'est retirée tout simplement parce que le correspondant chinois, enfin le groupe Suning a arrêté de payer. Ils ont renégocié là le mois dernier en urgence un contrat avec un nouveau diffuseur. Ils sont passés avec le groupe Tencent qui est un gros groupe d'internet chinois. Mais ils ont un contrat. Ils ont un contrat visiblement. Ils seront payés au nombre d'abonnés. Mmh. Au nombre d'abonnés.
Eh ben ils vont pas gagner grand chose Mediapro.
Donc si on part sur cette base là, effectivement la renégociation s'annonce très compliquée avec les Chinois.
C'est un fonds étatique donc forcément.
Ah bah oui, là, oui. Là vous tapez à la porte du Parti communiste chinois.
Et donc quel numéro à part Macron?
Mais vous croyez que c'est le numéro Ping, il va dire au fond, bah vous payez pour les clubs français, bon, alors qu'ils ont fait en Chine.
S'il dit un truc, ouais, je pense qu'il.
Oui, à part que justement, ils ont fait il y a 2 ans en Chine, ils ont fait une nouvelle loi qui impose aux clubs chinois qui achètent des joueurs étrangers. Qui achetaient des joueurs étrangers très chers, d'investir le même montant dans la formation du sport en Chine. Donc du coup, il n'y a plus de gros transferts vers la Chine maintenant, c'est fini.
Oui.
Donc je doute...
Alors moi, j'en étais pas là. Hein. J'en étais pas à ce niveau diplomatique entre Pékin et Paris.
Ah non, on vise haut, hein, direct.
Mais sans information, je soumets deux hypothèses. Le président de la République demande à Vivendi de faire un petit effort, parce que Vivendi, c'est Canal. Et que
Monsieur Bolloré.
On attend un peu, c'est Monsieur Bolloré. On attend que les prix baissent un peu, mais il faut sauver absolument le football.
Donc là, il y a l'option numéro 2, c'est-à-dire on casse le contrat avec Mediapro.
Ah mais
il se casse tout seul.
Ou le contrat se casse tout seul.
Si, il y a le contrat pas là pour l'instant.
Pendant une demi-heure tout à l'heure, on a dit qu'attention, le contrat était loin d'être cassé.
On en est. Souvenez-vous, si on regarde précisément.
Ma deuxième hypothèse,
alors peut-être que c'est encore du bluff.
Non,
mais simplement, il dit. On va s'asseoir et on va discuter.
Oui, mais on avance, Philippe.
Ça veut dire, sous-entendu, la Ligue a déjà accepté, contrairement à ce que Vincent Labrune fait passer dans son communiqué de presse, pour l'instant, c'est pas clarifié, ça. Monsieur Bourras dit, la Ligue va négocier.
Ah oui, mais alors, puisque ce n'est pas clarifié et qu'on doit débattre jusqu'à 20h sur le sujet, on va essayer d'avancer. Donc là, le président de la République et Vivendi, il faut sauver le soldat football français. Ça, c'est une première hypothèse.
Okay.
Deuxième hypothèse, Nicolas Sarkozy, qui va voir son ami Nasser El-Khelaifi, Bean, qui n'a pas besoin de lui rappeler que le Qatar organise la Coupe du Monde en 2022, qui n'a pas besoin de lui rappeler que le Paris Saint-Germain a lourdement investi pour gagner une Ligue des Champions et que pour l'ensemble du football français, il serait de bon ton de faire un petit effort.
En général, et tous ces coups-là, Christian, il tape directement avec l'émir.
Hein, l'émir, il a le portable.
L'émir
qui veut.
Ils ont déjà été faits, Christian. En 2008, quand il n'y a pas de concurrent.
Changé, Xavier.
Oui, mais quand il n'y a pas de concurrent pour Canal+, qu'est-ce qu'on fait payer? Orange? Bon, bah Orange, ils ont fait 4 ans à 200 millions d'euros la saison. Ils ont arrêté. En 2012,
il faut changer la situation, Xavier.
En 2012, il faut trouver un autre acteur, un autre concurrent pour faire monter les prix. On trouve beIN Sport, enfin le Qatar. Là, vous allez trouver qui maintenant?
Il a dit Canal et les acteurs historiques.
Vous allez devoir mendier auprès de gens qui sont déjà là. Ça ne sera pas du tout la même rapport de
force. Les hypothèses sont crédibles, Christian.
En situation de crise, de toute façon, le marché il est à la baisse. C'est une évidence. C'est-à-dire que soit c'est Mediapro qui va réussir à avoir une gratte, soit Mediapro se retire du jeu. Et à ce moment-là, les acteurs qu'on connaît vont rentrer dans la danse. Mais ce ne sera pas pour
au même prix.
On va avoir la même chose. Chercher un nouvel opérateur.
Les GAFA, ok.
Les 10 acteurs. éditeurs sont pas des mécènes, hein. Bein et Canal, eux, ils vont attendre que ça se ramasse et ils vont le racheter vraiment au clou, hein, au plus bas. Donc moi, je pense quand même que la solution peut être politique. Il y a quand même des relations entre la France et la Chine. Il y a des leviers. Hollande avait fait pareil à l'époque. Souvenez-vous du Qatar et Bein qui voulaient tout racheter. Ils ont dit laissez un petit bout à Canal+. Et il avait dit voilà, on vous a aidé avec les Saoudiens, aidez-nous avec le football. Donc ça peut se jouer quand même tout
seul. L'État a garanti le prêt, donc l'État a aussi un intérêt personnel à ne pas laisser.
Ce qui serait marrant, même si c'est pas drôle en fait, hein, c'est qu'il trouve une solution avec un opérateur qui arrive, qui met à peu près la même somme, et puis on est
reconfiné.
N'importe lequel, et puis on est reconfiné. Bon. Et la championnat s'arrête.
Non, c'est pas marrant. Mais en tout cas, c'est un dossier passionnant. Voilà. C'est un dossier passionnant.
Flippant pour ceux qui payent, hein, moi, 25 euros par mois. Hein.
Messieurs, aux choses du terrain, on va parler de l'équipe de France tout de même. Hein, au menu de
c'est gratuit,
ça. Le match, l'équipe de France, et ce sera même sur M6.
Voilà.
Demain.
Ça, on sait le trouver, ça.
Et sur RTL. RTL
ça, c'est sérieux. Plus le pilier gazant, ça fait 4 piliers.
Allez, on va parler de l'équipe de France, effectivement. Il y a quasiment deux équipes de France. Il y a eu un 7-1 contre l'Ukraine avec les jeunes pleins de talent. Il y a les titulaires qui vont revenir demain. La question est la suivante. Est-ce que l'équipe de France sera dure à manager jusqu'à l'Euro 2021? Car les footballeurs ont les aidants, évidemment, qui règnent non pas le parquet, mais la pelouse. Mais ça, c'est l'affaire de Didier Deschamps. On posera la question. Et puis, à 19h30, Arsène Wenger propose de nouvelles règles. Grand respect à Arsène Wenger. Mais je crois qu'on l'a perdu, là. Ces nouvelles règles. Je crois qu'on l'a perdu. On en parlera.
On va le débat y faire.
Et puis, non. Grand respect. Mais là, vous allez voir. Je veux dire, quand
il fait une touche au pied.
Vous avez pas un corner, le ballon sort.
Bah oui.
Mais c'est pas grave, on continue.
Oui. On a qu'à jouer dans la rue aussi.
Non, oui, et avec deux ballons.
Allez, on en parlera à 19h30. Dans un instant, l'équipe de France. A tout de suite, c'est On fait le match.
RTL, on refait le match. On refait le match.
Christian Olivier sur RTL.
Comment manager deux équipes de France qu'il est possible de construire? Il a du matériel, même si j'aime pas ce terme d'ailleurs. Didier Deschamps, on a vu une belle équipe de France contre une équipe d'Ukraine C mercredi dernier, 7-1. Mais il y avait un vrai sérieux, il y avait du talent. On va y revenir peut-être individuellement. Là, Didier Deschamps va nous remettre sans doute la plupart des titulaires pour un match de compétition Ligue des Nations. L'Euro 2021 arrive. Ils ont les dents qui raillent la pelouse, évidemment, les jeunes joueurs. C'est un vrai problème pour Didier Deschamps.
Ah non, c'est génial. Christian. Parce qu'une équipe, en fait, elle vit s'il y a un bouillonnement intérieur. Et là, le bouillonnement, il existe. Parce que l'arrivée d'Eduardo Camavinga, le retour d'Anthony Martial, les performances de Lucas Digne, tout ça, bah, ça permet d'entretenir une forme de concurrence. Une équipe d'une sélection, ça ronronne vite. Donc ça, c'est génial. Et puis, finalement,
elle est où la mise en danger, à part Camavinga qui effectivement
c'est énorme.
Oui, mais enfin bon, tu me dis retour de Martial, moi je ne l'ai pas trop vu contre l'Ukraine. Lucas Digne, bon, on sait très bien qu'il fait les matchs de préparation et dès qu'il y a une compète, il disparaît. Je ne suis pas sûr qu'il y ait une tant grosse concurrence que ça. Il y a beaucoup de jeunes. Upamecano n'a pas non plus été flamboyant. Enfin, je ne suis pas sûr que les titulaires aient mal dormi après l'Ukraine, moi.
Mais la Coupe du Monde, on l'a gagnée avec un banc aussi. Il me semble que Tolisso, il remplace magnifiquement Matuidi contre l'Uruguay. Il me semble que Zonzi,
Matuidi, il est parti. Donc voilà.
Oui, non, mais dans l'équipe titulaire, en Russie, il y a une place à prendre, c'est Matuidi.
Il y a de beaux jeunes qui viennent, qui arrivent. Philippe Sanfourche.
Dominique, en fait, c'est qu'on est dans une continuité de la façon dont Didier Deschamps fonctionne avec l'équipe de France. Il n'y a pas une rupture.
Avec une concurrence qui me paraît plus accrue, quand même.
Oui, mais au final, est-ce que ça va vraiment faire bouger les lignes? C'est-à-dire que tu as des choses qui sont mathématiques. Matuidi s'est mis tout de lui-même un petit peu en retrait. Donc il y a un poste qui va devoir être... Alors peut-être que ça va se faire par le biais d'un changement de système, on l'a vu. Mais en gros, Kanté et Pogba, ça bouge pas. Si ces joueurs-là sont réguliers et pas blessés, ils reviennent naturellement dans le système. Griezmann, à la pointe du losange, on va dire. Donc il faut trouver quelqu'un à gauche. Ce quelqu'un à gauche, là on voit par exemple, apparemment sur ce qui se profile sur le match de demain, Adrien Rabiot va être titulaire. Donc il a une vraie carte à jouer, Adrien Rabiot.
Rabiot, Camavinga, Tolisso, Coman.
À gauche, en gros, c'est Rabiot à voir. Ça peut être
Camavinga.
Alors attendez, mais ma question est plus perfide que ça. Parce qu'on va prendre les joueurs un par un. Ma question est plus perfide que ça. Pogba va revenir.
Il y a une autre place à
donc
prendre.
Donc Camavinga va retourner sur le banc des remplaçants. On est d'accord. Upamecano sur le banc des remplaçants.
Oui, Varane.
Varane va revenir. On est d'accord. Aouar sur le banc des remplaçants. Griezmann va revenir. On est d'accord. Martial, Rabiot, je sais pas qui. Hein, d'accord. Digne. Qui a été excellent,
Ma question, Pavard, ça bouge pas.
D'où le management de Didier Deschamps en vue de l'Euro 2021.
C'est pas compliqué, le management. Il y a deux, trois postes où il va y avoir effectivement un petit peu, ça va se tirer la bourre. C'est
La défense centrale, axe gauche.
Ouais, parce
on voit bien que l'anglais pique un petit peu du nez.
Ouais, Kimpembe
est devenu titulaire avec le départ de Thiago Silva. Il n'y a plus de rotation. Il est vraiment titulaire indiscutable en défense centrale au PSG. Demain, a priori, c'est Kimpembe qui débute aux côtés de Varane. Ce sera, entre guillemets, la première fois depuis que l'anglais est arrivé en équipe de France que sur un match important, l'anglais, en fait, il est arrivé, boum, il a posé les valises et il s'est mis à côté de Varane. Et que ce soit défense à 4 ou défense à 5, de toute façon, il était tout le temps titulaire. Là, a priori, demain, c'est pas a priori, même sur la mise en place, là, visiblement, c'est Kimpembe-Varane. Donc, il va y avoir une concurrence Kimpembe-l'anglais à ce poste-là. Mais voilà, c'est ce qui se passe dans toutes les sélections, à part à ce poste-là.
Après, au milieu de terrain, si je joue sur un milieu à 3.
On est dans une année très bizarre, Christian. On ne sait pas s'il n'y a pas y avoir une succession de blessures, tout ça, à cause du Covid. Moi, je suis content de savoir qu'il y a deux équipes de France, qu'il y a des solutions à plusieurs postes. En plus, historiquement, Didier Deschamps, il a dû faire parfois, pareil, au plus pressé, forfait en cascade à l'Euro 2016, quelques forfaits quand même à la Coupe du Monde 2018. Donc, moi, je suis content de savoir qu'il y a 15-16 joueurs sur lesquels on peut compter.
Non, et puis dans le management, il y a des joueurs à forte personnalité qui sont jeunes, du potentiel, qui vont devoir encore justement se patienter précisément. Mais quand tu as l'objectif 2021 qui arrive, à un moment donné, tu as une petite déclaration par-ci, tu as un petit comportement par-là. C'est pour ça,
Christian,
ça. Je parlais de ce management.
La chance qu'il a, Deschamps, c'est qu'on a une séquence où on va enchaîner l'Euro finalement et la Coupe du Monde. La Coupe du Monde, c'est un an et trois mois après. Donc si vous voulez, même les jeunes qui trépignent et qui joueront peut-être pas l'Euro 2021, ils savent que quoi, un an après, ils ont une Coupe du Monde. Donc ça aide quand même dans le management Didier Deschamps.
Tu crois que Giroud va s'arrêter après l'Euro?
Non mais Giroud, il va continuer, il ira jusqu'en 2038, Giroud.
Ça tombe bien, là vous me tendez la perche.
Il sera sans doute chaque semaine. 157 buts.
Vous me tendez la perche. Nous avons chaque semaine un sondage avec nos amis de Doxa et nous l'avons consacré cette semaine à l'équipe de France. Les joueurs préférés des Français, pour les Français précisément, Mbappé est 52% des Français, Griezmann 44% et Lloris 30%. C'est pareil hein, pour les amateurs de foot. Mbappé, Griezmann, Lloris. Giroud arrive en quatrième position pour les Français et pour les amateurs de foot. Logique, pas logique?
En fait, il y a quelques années, c'était quand même Lloris le numéro 1. Donc, le phénomène Mbappé s'inscrit dans la durée quand même. Parce que là, il est devenu le chouchou vraiment de tous les Français. Il est la personnalité du football, peut-être, qui a supplanté tout le monde et qui est entré dans le cœur des Français désormais. Il s'installe, là, je trouve. Et c'est fort de sa part, quoi. Mm-hmm. Donc, c'est, pour moi, la grande nouvelle, c'est qu'Mbappé est devant Griezmann.
On voit bien parce qu'en fait, il y a quasiment aucune différence entre le choix des amateurs de foot et les Français en règle générale. Ça veut dire qu'effectivement, Kylian Mbappé est aujourd'hui un personnage presque public, connu de tout le monde, qu'on aime le foot ou pas, il s'impose naturellement comme le personnage numéro un du foot.
Florent Gazan.
Non, il y a une question aussi de notoriété. Finalement, les quatre joueurs qu'on a cités, c'est les quatre joueurs les plus connus des Français. Mbappé, parce qu'il est Mbappé, Griezmann, parce que voilà, Lloris, le capitaine, et Giroud, parce que non seulement c'est Giroud, mais l'affaire Benzema, machin, donc c'est un nom quand même qui apparaît. Et puis Giroud, il symbolise le joueur qu'on aime bien, parce que le joueur qui devrait pas être là, mais qui est là. Donc c'est très français.
Moi, je suis d'accord avec Florian sur ce coup-là, parce que comme Mbappé
seulement sur ce coup-là.
Non, merci Xavier.
Comme Mbappé soit le numéro un, vu comment tout est programmé autour de lui, la communication mouse costaud qui est faite, c'est pas tout à fait anodin.
Quelle
mais
communication
que Giroud, la publicité.
La jaquette du jeu vidéo, tu sais, le jeu de foot connu.
Mais ça, c'est. Lui, là, il est pour rien, on vient le chercher, en fait.
Hein. On vient le chercher, mais pareil, il fait
Il
n'a
pas refusé non plus.
Il n'a pas refusé, mais on vous propose de faire la jaquette qui est.
Non, mais on sait très bien que Mbappé est mis en avant.
Il n'y a pas une machine derrière.
En fait, quand même.
Lui, il est.
Non, oui, mais la machine se met en place, c'est toujours pareil. Ça part d'un produit. Si le produit n'est pas bon, tu peux mettre une machine en place.
On est d'accord.
Et puis ça peut marcher un temps, et puis derrière, on arrête. Là, en fait, si la machine, elle fonctionne, c'est parce qu'à chaque fois qu'on remet une pièce dans la machine, justement, elle génère deux pièces, trois pièces, quatre pièces ou cinq pièces. Donc ça veut dire que c'est un. Si on parle en termes de
trivialement
de marketing et commercial, il est vendeur.
C'est pour ça que c'est pas une surprise, contrairement à ce que dit Dominique Sévrac, c'est pas une surprise de le retrouver en tête. En revanche, que Giroud, qui lui vient du monde amateur, qui a commencé en première division en Ligue 1 à 24 ans, en équipe de France à 25, et qui se retrouve aujourd'hui deuxième meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France et qui est le quatrième personnage footballeur de l'équipe de France préféré, c'est un miracle quelque part.
Mais selon nos amis de Doxa, toujours dans ce sondage au Doxa du week-end consacré à l'équipe de France, pour 55% des Français et 56% des amateurs de foot, donc c'est du touche-touche, Olivier Giroud dépassera Thierry Henry, détenteur du record des buts avec l'équipe de France, 51.
Mais c'est sûr,
lucide.
Mais c'est sûr.
Lucide,
il reste
9, donc il y a encore 9 buts. Hein.
Oui, et puis il reste au moins 8 matchs sans compter les matchs de préparation avant l'Euro 2021. Comme l'a dit Florian, la Coupe du Monde est très rapprochée après. Donc même s'il n'est plus titulaire et qu'il est dans une groupe élargie de 23, bon, il pourra toujours marquer un ou deux buts. De...
Il aura 35 ans, ce ne sera pas non plus. Hein,
voilà. Donc franchement, ouais. 9 buts au rythme où il y a des matchs internationaux.
Dans le panthéon des avant-centres de l'équipe de France, oui. Vous le placez.
Derrière Papin, derrière Juste Fontaine, derrière.
Thierry Henry.
Derrière Thierry Henry.
Non, je ne suis pas d'accord
avec Benzema.
Toi. Tu peux pas le mettre derrière Jean-Pierre Papin en équipe de France.
Je parle en équipe de France, ah, si.
En équipe de France, tu trouves qu'il était Papin était plus marquant qu'Olivier Giroud? Alors autant avec l'OM, oui, bien sûr.
Papin
en équipe de France,
Jean-Pierre Papin. Là, j'ai plus les chiffres en tête, mais de mémoire, il doit avoir 30 buts.
30 buts, il
en a. 30 buts en équipe de France à une époque catastrophique, hein, on gagnait pas un match. Et quand tu fais le ratio, il y a que Michel Platini qui doit être devant,
qui n'est pas un avant-centre.
Voilà, c'était le ratio nombre de buts par match joué. Jean-Pierre Papin, c'était.
Mais après, tu parles de quoi? Tu parles du style? Tu parles des résultats? Tu parles de quoi?
Je parle d'un autre.
Tu parles des stats?
Non, mais je parle de la longévité. Je parle quand même. Giroud, il a quand même donc maintenant, il a passé. Il a sans sélection. Il a marqué quand même. Il marque 0,4 buts par match globalement. Il a un ratio incroyable. Je veux dire, il y a aussi.
Pourquoi tu le mets devant Papin alors?
Bah, sur sa trace en équipe de France.
Bah non, mais après, je sais pas ce que t'appelles la trace, mais techniquement, bah,
est-ce qu'il a fait en équipe de France?
Papin, sur la trace, il a joué sur... avec l'Olympique de Marseille. Plus, voilà.
Oui, d'accord. Papin, mais... il a fait une demi-coupe du monde en 1986 et il en a pas joué d'autres.
Les champions du monde, Giroud, quand même.
Giroud, il a gagné une Coupe du Monde. C'est quand même plus difficile de marquer les buts en finale de Coupe du Monde. Peut-être.
Sans marquer les buts, il n'en a pas marqué, mais il a gagné
la Coupe du Monde. Guimard, pour moi, c'est derrière Papin. Guimard, c'est derrière Papin.
Bah oui.
Bah oui, là, oui. C'est parce qu'on a. Je mets pas le palmarès. Si c'est pas le palmarès qui détermine, bon bah ok. Alors c'est les plus grands, on les connaît. C'est Guivarch, Dugarry, Diomède, Henri, Trezeguet.
La situation.
Tovin, alors.
La
Tovin,
situation sur Griezmann. Nos amis de Doxa ont posé la question au FC Barcelone. Peut-elle, selon vous, remettre en cause sa place de titulaire en équipe de France? Non pour 62% des Français. Non pour 58% des amateurs de football. Donc Griezmann, tout va bien en équipe de France.
Bah là, ses déboires, j'ai envie de dire jurisprudence Giroud, c'est-à-dire que tout le monde a bien compris que à partir du moment où un joueur est intégré en équipe de France, que ça se passe bien dans le groupe et que sur le terrain il apporte quelque chose, il peut vendre des biscuits au club, c'est pas un problème, il jouera.
Vendeur de biscuits à Barcelone.
À Barcelone, ouais.
D'accord.
Ah ouais. Je savais pas, il fait des churros
non,
aussi.
Non, c'est le biscuit ou autre chose.
Des churros, ça n'a rien.
Pâtisserie catalane.
Ah, c'est bon, les petits flans là.
Pas
les
bien.
Petits flans. Ah, le nom m'échappe, c'est terrible. J'ai une mémoire de moineau.
Il y a nata dedans. Les...
Pasta de nata.
Oui, ah,
ça c'est portugais.
C'est portugais.
C'est portugais.
Ah oui, c'est portugais.
Ah bah il va être transféré peut-être alors du coup.
Ah, c'est un truc formidable. Il y a une pâtisserie à Belém.
Oui,
à Lisbonne.
Tout à fait. On a l'antenne.
Pasta de nata.
Cyril Lignac sort de ce corps.
En fait, les pâtisseries catalanes. Non. Publicité
derrière la crème.
La crème derrière la pub, les amis.
La crème de la crème.
Les idées de monsieur Arsène Wenger.
Ouais, c'est moi la crème de la crème.
C'est pas terrible.
Il sucre les fraises.
Touche au pied.
Touche au pied.
Touche au pied.
Ouais.
Vous n'avez pas l'air convaincu.
Pas du tout. Allez, publicité, c'est parti.
RTL, on refait le match. On refait le match.
Christian Olivier sur RTL.
On fait le match avec Philippe Sanfourche, Dominique Sévrac, Florian Gazan, Xavier Barré, après avoir parlé de l'équipe de France, après avoir parlé de Mediapro et de la crise qui secoue le football français. Parlons également du terrain, toujours du terrain, avec les propositions de monsieur Arsène Wenger. Grand respect pour cet entraîneur-manager. Il n'y a aucune discussion possible. Il est désormais en charge du développement du football, hein, pour moderniser le football pour la FIFA,
ouais.
Fédération internationale de football. Quatre propositions cette semaine publiées dans la presse anglaise. Alors, à moins qu'il y ait une erreur de retranscription, voici ces propositions.
Non, on va vérifier.
Voici ces propositions. Autoriser les corners dont la trajectoire sort du terrain.
Ça
deuxième adore. Proposition. On va les reprendre une par une.
Ouais.
Deuxième proposition. Pouvoir jouer un coup franc pour soi-même. Troisième proposition, pas de hors-jeu si une partie du corps avec laquelle on peut marquer est couverte par le défenseur. Là, j'ai mis un peu de temps à réfléchir parce qu'on peut marquer avec n'importe quelle partie du corps. Mais vous verrez pourquoi cette proposition, enfin, oui, tient la route, mais après, c'est impossible. En tout cas, ça va renforcer la VAR. On va en parler dans un instant. Et quatrième proposition, jouer certaines touches au pied. Alors juste
ça, c'est pas nouveau. Ça.
Voilà,
les touches au pied, ça fait longtemps qu'on en parle.
Dans les écoles de football, quand on est gamin à 7 ans, dans les petits tournois de Pâques.
Bien sûr, mais ça revient de façon cyclique, jouer les touches au pied. Donc ça, c'est pas une grande nouveauté.
Xavier Barré.
Moi, j'avoue que franchement, j'ai pas d'opinion totalement opposée à ça. La seule chose, c'est que les équipes qui font du pressing haut, qui viennent chercher les adversaires quand ils doivent jouer une touche à la main savent qu'ils vont pouvoir faire ce pressing haut parce que à la main, un footballeur, il va vous envoyer le ballon à 15-20 mètres. À part quelques cas particuliers qui arrivaient à les faire directement dans les surfaces adverses. Mais sinon, si vous effectivement faites les touches au pied, vous changez complètement le jeu.
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire que
ça devient un dégagement. C'est un 6 mètres sur le côté, quoi.
Voilà.
Mais ce sera la même chose ?
Non, je pense pas. Je pense que pour les équipes qui font le pressing haut, on parle de Manchester City par exemple, Leeds et d'autres, le Barça de Guardiola, si vous avez des touches au pied alors qu'ils viennent faire le pressing sur l'adversaire, que le ballon sort, eh ben ça sert plus à rien de faire le pressing haut puisque de toute façon un gars, il peut dégager comme un gardien, il vous enverra le ballon
mais
à 60 mètres.
Le pressing haut, il est intéressant justement parce que le pressing haut, vous l'obtenez davantage quand vous restez avec une touche à la main qu'avec un dégagement au pied.
C'est pour ça qu'à ce moment-là, la touche à la pied, il ne faut pas la
dégager. Et d'ailleurs, la touche, très souvent, elle est récupérée par l'adversaire.
Oui,
je me demande si à l'entraînement, vous avez des joueurs qui s'entraînent à faire parfois même des bonnes touches. Ça, c'est autre chose. Mais la touche, elle est souvent récupérée par l'adversaire. Ça vous permet donc pour l'adversaire d'opérer un pressing haut, donc d'être beaucoup plus offensif.
On est d'accord,
C'est
ce qu'on dit. Si vous faites une touche au pied, ça disparaît.
Ça disparaît, mais c'est regrettable.
Oui, c'est pour ça que je vous dis, la touche à la main, j'ai pas d'opinion.
Comment fera l'Islande?
J'ai pas d'opinion absolument.
Les touches de 40 mètres.
Tranché sur le sujet. Voilà.
Parce que c'est du 50-50 en vérité pour vous.
Exactement. Je trouve que le pressing haut, c'est intéressant.
Comment font les Islandais qui font des touches à 50 mètres avec leur Golgot, là, qui font des touches incroyables? S'ils peuvent plus les faire à la main, c'est compliqué. Non, Arsène Wenger, il a oublié que le football, ce qui fait son succès, c'est que les règles ne changent jamais.
On reste sur les touches d'abord.
Mais il faut prendre le package parce que la seule crédible, c'est peut-être celle du hors-jeu, éventuellement. J'imagine qu'il a fait quatre propositions pour qu'on n'en retienne qu'une.
On va sur le hors-jeu. Je répète, pas de hors-jeu si une partie du corps avec laquelle on peut marquer est couverte par le défenseur. Alors moi, je suis resté au bureau là, cet après-midi, je me suis dit, mais on marque avec toutes les parties du corps. Oui, j'avais pas exactement compris. C'est-à-dire qu'un joueur qui a les épaules en avant, qui est hors-jeu, avec le fameux...
Le révélateur.
Totalement pipeau parfois, enfin bon. Vous avez les épaules en avant, vous êtes effectivement hors-jeu. Donc en radio, c'est difficile, mais avec, vous faites une aile de pigeon. Vous récupérez le ballon, vous le remettez dans le sens de la course et vous marquez, vous n'êtes pas hors-jeu.
Christian, vous dites, vous avez les épaules en avant, vous êtes hors-jeu. Enfin, au-dessus des épaules, il y a la tête, on peut marquer de la tête, donc on n'est pas hors-jeu avec ce système.
Ah ben, si les épaules sont en avant, la tête elle est en avant également.
Oui, mais avec, les épaules, si on marque de l'épaule.
Il y a des gens qui ont une tête derrière les épaules.
Ah oui, ça. Si on marque de l'épaule, on n'a pas le droit, ça fait mal, mais si on marque de la tête, c'est valable. Donc, je comprends rien du tout à son histoire d'enjeu.
Je pense que c'est lié au contexte anglais, puisqu'il a accordé, je crois, cette interview au Mirror. En Angleterre, il y a effectivement une grosse pression pour adapter l'assistance vidéo, la VAR, pour laisser une marge d'interprétation sur le positionnement des joueurs, des attaquants sur le hors-jeu. C'est-à-dire parfois on dit ah oui mais là le pied est hors-jeu de 10 cm donc il y a hors-jeu. Non, c'est de dire il y a une espèce de zone grise d'une vingtaine de centimètres où on laisse jouer.
C'est
donc je pense qu'il répond en fait quelque part à cette demande.
Tu décales le problème. Hein.
C'est-à-dire qu'en fait ce sont les mêmes personnes qui se sont battues et qui ont obtenu la VAR, c'est-à-dire la vérification à la vidéo, que justement maintenant il n'y aurait plus de zone grise et que soit t'es hors-jeu, soit t'es pas hors-jeu, mais tu t'aperçois dans les faits que ça n'est pas possible. Que ça n'est pas possible et que c'est antinomique avec le jeu de football. Donc tu reviens en fait en arrière en essayant d'inventer une nouvelle règle qui va en gros biaiser la VAR. Où tu te dis, vu qu'en fait, on a une façon...
Qui ne va pas biaiser, qui va la valider. C'est-à-dire ceux qui ont eu tort de nous imposer la VAR vont quand même nous l'imposer.
C'est une façon d'accepter l'idée que la VAR, en fait, a mis en lumière une erreur d'appréciation du foot. C'est-à-dire que tu es obligé d'avoir cette zone grise. Et avec la VAR, tu as l'idée qu'elle n'est plus possible. Alors qu'en fait, si, de fait, elle existe, la zone grise. Elle existe, mais elle existera toujours.
Puisque d'une image à l'autre, c'est image par image, tu prends une image, t'es hors-jeu, l'image d'après, tu l'es plus, donc quelle image on choisit, c'est très compliqué.
C'est clair. Mon exemple, la tête et les épaules en avant, vous êtes hors-jeu, aile de pigeon, vous remettez le ballon dans la course, vous marquez, vous n'êtes pas hors-jeu.
C'est une action tous les 1 milliard. On est en train de débattre sur un truc qui...
Débattons sur autre chose.
Parfois, c'est décisif, tu vois, quand il y a la fameuse demi-finale Tottenham-Manchester City et le but de Sterling ou d'Aguero, je ne sais plus lequel est en position de hors-jeu, ça se joue à quelques millimètres. Donc si tu as cette proposition de Wenger qui est retenue, on laisse, enfin en tout cas, ce que je crois qui répond en fait aux demandes des Anglais, à ce moment-là, il n'y a plus de hors-jeu dans ce genre de situation.
On va tout de suite dire aux auditeurs que ça n'arrivera jamais. Il a fallu attendre la pandémie pour qu'on la soit à 5 changements. C'est un sport hyper conservateur qui ne change jamais ça. Et
je suis pas d'accord avec toi, Dominique.
Succès.
La règle du hors-jeu a changé dans les années 90. Souviens-toi, au début,
il fallait passer en retrait au gardien, tout ça. Mais
il y a eu des changements. Sur le hors-jeu, à l'époque, il fallait que l'attaquant soit que le défenseur soit derrière l'attaquant. Maintenant, on a changé. Ça peut être sur la même ligne.
Si le foot a changé 5 règles en 50 ans, c'est le maximum.
Non, mais ce sont des changements de règles assez spectaculaires. Je vous donne un autre exemple. Autoriser les corners dont la trajectoire sort du terrain.
Ça va arranger beaucoup de joueurs de Ligue 1.
Non, mais est-ce que j'ai bien compris qu'un ballon qui sortait du périmètre du terrain, qui passait quasiment derrière le but de l'adversaire, mais qui revient au deuxième poteau, en tout cas à l'autre, de l'autre côté,
ça dénature le jeu.
Non, c'est affreux.
Autres, c'est à la marge, c'est des situations, on est en train d'essayer.
C'est affreux.
Ça peut arriver une fois tous les 15 matchs. Bon, ok. Mais là, ça dénature totalement le jeu. Ça veut dire que vous avez des joueurs, on les connaît, je veux dire, des joueurs comme Neymar ou Di Maria, ils sont capables de vous faire un ballon qui va être brossé, qui va aller carrément dans la tribune de 5 ou 6 mètres, qui va revenir et qui va repiquer dans la surface de réparation.
Qui va rentrer par le
c'est
côté.
C'est-à-dire que le gardien, les défenseurs qui sont face au jeu, et donc qui ne regardent pas la tribune, ne vont pas voir d'où vient le ballon.
Saint-Cloud, il revient à porte d'honneur.
Exactement.
Ça peut être drôle.
Ça dénature totalement le jeu.
Totalement, beaucoup moins que la touche au pied pour moi, mais bon.
Bon,
parce que parfois il y a des corners qui sont tirés, vous savez,
c'est magnifique, un corner.
Non, mais je suis d'accord avec toi, on ne sait pas si c'est vraiment sorti ou pas le ballon, parce que pour voir s'il a dépassé la ligne alors qu'il est s'il a 3 ou 4 mètres
si tu le tires, Xavier, c'est-à-dire que tu peux permettre de brosser un ballon de 3 ou 4 mètres.
Oui, j'ai bien compris.
Dans la tribune.
Oui, oui.
Et qui va revenir.
De toute façon, le joueur n'ira pas le chercher dans la tribune parce qu'il sera obligé d'attendre pour le réceptionner de la
tête devant les attaquants.
Regarde au basket, le panier. Il est en avant de la limite de la ligne. Tu peux faire des passes par derrière. Ça me choque beaucoup moins que la touche.
Regarde tes munitions, on revient après la publicité et encore autre chose. Il y a encore autre chose.
RTL, on refait le match.
Christian Olivier sur RTL.
On fait le match une vingtaine de minutes avec Dominique Sévrac, Philippe Sanfourche, Florian Gazan, Xavier Barret. Dans un instant, les tirs au but. L'actualité qui n'a pas été évoquée ou qui ne mérite pas un quart d'heure d'émission, voire une demi-heure, voire trois quarts d'heure, comme celle qu'on a évoquée tout à l'heure avec Mediapro et la Ligue du football professionnel. Et des sujets qui sont soumis donc à nos débatteurs chroniqueurs, mais qui n'en connaissent pas la teneur. Donc faut être solide dans la tête.
Mental.
Et faut, souvent, au tir au but, il y a les mecs solides et puis ceux qui se dérobent. On ne citera pas de nom. Pouvoir jouer un coup franc pour soi-même. Voici l'une des trois également.
C'est dans la continuité de la dernière réforme adoptée par la FIFA qui est de pouvoir jouer le centre. Vous vous souvenez, avant le centre, il fallait deux joueurs pour jouer l'engagement au coup d'envoi de chaque mi-temps. Jouer un coup. Quelle est la. Alors, il fallait bloquer deux joueurs pour jouer le centre. Là, les coups francs, parfois, il faut donner aux voisins pour pouvoir tirer direct.
C'est le principe du coup franc direct.
Du coup franc direct, pour jouer les coups francs directs.
Et alors
vous jouez pour vous-même et vous enchaînez.
Les coups francs de Platini, les coups francs de Neymar.
Mais ils sont toujours possibles.
Les Thomas Hawk de Cristiano Ronaldo qu'on verra demain au Stade de France. Tout ça, c'est pas sérieux, non. C'est quoi l'intérêt de se tirer un coup franc pour soi-même?
C'est-à-dire que tu peux le jouer vite.
Oui,
tu vois ce que je veux dire.
C'est-à-dire que le principe d'un coup franc,
ça va accélérer le jeu. Ça va accélérer le jeu.
C'est au 18 mètres, devant la surface de réparation, un peu à droite, un peu à gauche, et que tu trouves ou un pied gauche magique,
continuer. C'est surtout quand tu as un coup franc dans le rond central. Parfois, tu as des arbitres qui te font revenir parce que. Ah non, attendez.
À distance réglementaire, le joueur adverse ou pas? Parce que, je veux dire, ce sera faute immédiate. Obstruction immédiate.
C'est quand tu veux le jouer vite, surtout, je pense que l'intérêt.
Oui, mais ça, c'est déjà possible.
C'est déjà possible, mais tu es obligé de le jouer pour un coéquipier si tu veux le jouer vite.
Avec le ballon.
C'est ça.
C'est pas un coup franc.
Il le fait devant tout le match.
C'est une manière d'individualiser encore plus le football qui est de moins en moins collectif.
Alors, en préambule. J'ai rappelé vraiment l'immense palmarès d'Arsène Wenger.
Super. Dans le jeu, la trace qu'il a laissée dans le jeu.
Formidable. Mais pourquoi ça maintenant?
Parce qu'il faut justifier un peu son rôle à la.
Je ne pense pas à ce point.
Ça fait quelques temps qu'on n'entendait plus trop parler de lui. Ce rôle.
Il n'a pas besoin de ça, Arsène Wenger.
Non, mais il faut bien justifier. Tout le monde a besoin de justifier ce qu'on fait dans la vie.
Ce qui est assez énorme dans cette histoire, c'est qu'en gros, il nous dit Arsène Wenger, c'est pour que le football soit encore plus spectaculaire et offensif, toutes ces nouvelles règles. Bon, si vous voulez voir, il a qu'à regarder Olivier Tom, ça existe déjà. Mais le problème, c'est qu'en fait, il s'attaque pas au bon problème, il est à la FIFA. Si le football aujourd'hui est pas assez spectaculaire, offensif, c'est pas parce que qu'il faut inventer des règles, c'est juste qu'il faut changer les calendriers, bosser là-dessus, c'est ça aussi le problème. Pourquoi est-ce qu'Arsène Wenger, il se pose pas là-dessus? Pourquoi est-ce qu'il valide le fait qu'on ait une Coupe du Monde à 847 pays?
Sur de vrais problèmes de fond.
Mais oui, mais c'est là-dessus
qu'il... Parce que c'est pas son rôle.
Oui, bah, il a la FIFA. S'il veut que le football redevienne offensif, il faut aider les joueurs à l'être. Et aider les joueurs à l'être, c'est qu'alléger les calendriers, changer ça, pas changer les règles du jeu.
On a eu la VAR. Je crois qu'il faut être vraiment vis-à-vis du sport qu'on aime au-dessus de tout. Il faut être profondément réactionnaire. Il faut être conservateur.
Mais il l'est. Il l'est. Bon. Il l'est déjà.
Bah, pas avec ses idées, là.
C'est pas révolutionnaire. Hein, on passe
il faut
pas...
être, j'ai dit, réactionnaire.
Oui. Mais c'est un sport qui est dont l'essence est réactionnaire.
Mais là, c'est le football popcorn.
Oui, mais ça ne verra jamais le jour, en fait. Parce qu'au-delà du fait qu'il en fait 4 pour en avoir une, bah, toute façon, il faudrait passer par le board, il faudrait passer par un circuit. Il le fait aussi parce qu'il sait que ça ne verra jamais le jour.
Mais après, ce n'est pas non plus révolutionnaire ce qu'il propose, quoi. C'est. Bon, oui. Moi j'ai l'impression que c'est beaucoup de bruit pour pas grand chose et qu'au final ça se fera pas effectivement.
Mais on peut pas le laisser tranquille. Pas...
Non, quand on dit le football pop-corn,
le football popcorn, c'est ce qu'avait proposé Jacques Henriero avec ses histoires de loin qui comptent plus
qui
que les
trois,
autres.
Qui valent 3 buts.
Et qu'on peut faire gamelle aussi.
C'est du même
aussi,
tonneau. Franchement, c'est du même tonneau. C'est du même tonneau.
Là, on reste dans la culture foot.
Il est plus facile de tomber sur Héros effectivement, qui n'a pas joué au football ou en tout cas pas à haut niveau. Arsène Wenger également d'ailleurs, mais qui n'a pas le palmarès d'Arsène Wenger. Là, c'est évidemment, c'est beaucoup plus facile de tomber sur Héros qu'Arsène Wenger.
Et puis VAR,
mais c'est du même tonneau.
La VAR, Christian, vous savez, on est encore dans la phase d'expérimentation. Hein. Vous avez vu qu'à la Coupe du Monde, ils ont commencé à ne plus l'utiliser à partir des quarts de finale. Vous savez, c'est dans 2-3 Coupes du Monde, dans 2-3 Euros, dans 2-3 Copa América, s'il y a trop de problèmes,
on reviendra.
Mais bien sûr, Christian, on l'arrêtera. On l'arrêtera.
Je crois que c'est un vœu.
Il n'y a pas d'espoir où on l'a.
Mais si,
c'est pas le sens de l'histoire quand même.
C'est pas le sens de l'histoire.
Moins de vidéos, moins de vérifications, moins de suspicions.
Vous avez des enfants qui connaîtront peut-être un football sans VAR.
Non, je ne crois pas du tout.
Le football,
en revanche, quand on met les pieds dans ce genre de réforme, en général,
mais il y en a une qui sort.
Ça sort. Ça sort et c'est adopté. Regardez là, les 5 remplacements qui avaient été adoptés à titre provisoire par le board à cause du Covid. Ben, on voit que déjà qu'ils sont institutionnalisés, poursuivis dans un certain nombre de pays.
Sauf les Anglais.
Voilà, sauf la première ligue.
Sauf la première ligue.
Mais on verra que, à mon avis, ça continue. Donc, effectivement, une de ces réformes de Wenger, il y en a... Alors, laquelle ?
Donc, chez les inventeurs du football, avec Arsène Wenger qui a construit son palmarès chez les inventeurs du football, voilà que on nous sort donc des règles qui sont... voilà, en fait, c'est FIFA 2000, je ne sais pas combien, quoi. Voilà, c'est
21.
C'est PlayStation, c'est... Voilà, c'est ça qu'on veut.
Non.
Faut le dire.
Mais
faut le dire.
Bah non, c'est pas ce qu'on veut.
Bah non, mais en plus, si dans les jeux vidéo, il faut aussi changer les règles, qu'on puisse faire les touches au pied, aujourd'hui, c'est pas programmé. Moi, je peux pas faire touche au pied sur mon jeu. Hein. C'est pas possible.
Bon, on a tout dit.
Mais les touches au pied, non.
Ouais. Après, il faut aussi être honnête, il y a maintenant un joueur sur deux qui ne sait pas faire une touche correctement. Si on devait les faire rejouer à chaque fois,
ça serait pas mis au pied, Philippe. Ça serait pas mis au pied.
Ni tirer les corners, d'ailleurs.
Allez, une nouvelle page de publicité. Et ça, c'est un rendez-vous vraiment très attendu désormais. Une nouveauté, les tirs au but. Les tirs au but, des sujets que les invités ne connaissent pas, dont les invités ne connaissent pas vraiment la teneur et qui devront s'emparer du micro comme les plus courageux s'emparent du ballon pour aller marquer un pénalty. Tout de suite.
RTL, pour eux-mêmes. On refait le match. On refait le match.
Christian Olivier sur RTL.
Les 10 dernières minutes d'On fait le match. Le casting du soir. Philippe Sanfourche, Dominique Séverac, Florian Gazan et Xavier Barré. Les tirs au but.
Après, messieurs. Prêt.
Les tirs au but.
Mais je suis prêt.
Les tirs au but.
Les tirs au but, ça n'a pas été modifié par Wenger, c'est toujours pareil.
Donc ça me demande le plus de travail. Hein. C'est vraiment, donc tout est noté, tout est... Donc je vais choisir, fonction du timing qui nous reste, le mercato. Tiens, à propos du mercato. Le mercato, vous êtes prêts ?
Oui.
Coup de sifflet de l'arbitre, prêt ? On est d'accord. Ah. Voilà, vous l'avez entendu le coup de sifflet. Atem Ben Arfa au Girondins de Bordeaux. Et pourquoi pas ?
Eh ben oui. Très bonne idée. Atem Ben Arfa, Jean-Louis Gasset, qui est un entraîneur qui aime faire ce genre de coups. Il l'avait fait avec M. Villa, notamment à Saint-Etienne, qu'il avait bien relancé de Buchy. Ben Arfa, c'est un joueur qui a besoin d'être aimé. C'est un grand enfant, il l'est toujours. Et Jean-Louis Gasset, c'est le papa idéal. Il va le cocooner, il va le poupouter, il va le mettre dans du coton et il va en refaire un joueur qui va nous faire rêver. Peut-être pas toute la saison, mais qui va retrouver un niveau digne de son nom. Il fera peut-être pas une saison comme à Nice, mais je pense qu'il peut vraiment aider cette équipe de Bordeaux qui a vraiment un niveau assez faible.
Vous avez vu comme Gazan s'est emparé du ballon?
Oui, c'est un peu là.
Il a tremblé et Lulu,
c'est le premier tireur. C'est le premier tireur, c'est bien.
Rien à ajouter, messieurs?
Non, c'est bien.
Autre info, vous savez qu'on a le droit à un joker. un joker.
Oui, bien sûr.
Tous les clubs peuvent se renforcer actuellement.
Bah oui, Valentin Rongier l'an dernier.
Ah oui, le joker.
Il n'y a pas de joker médical.
Non, c'est un joker.
Alors justement, Mbaye Niang, de Rennes à Saint-Etienne. Alors Rennes va disputer la Ligue des Champions. C'est incompréhensible ou c'est seulement une question de fric?
C'est une question de fric?
Oui, alors là, il faut attendre le coup de sifflet quand même.
Sur le groupe.
C'est à retirer, à retirer, monsieur Olivier.
À retirer, là.
Allez.
C'est une question de fric. Sachant que ce soir, Saint-Etienne a refusé Niang. Finalement, il n'ira pas.
Officiel.
Oui, c'est officiel. Il n'ira pas à Saint-Etienne. Mais bon, visiblement, voilà, la masse salariale de Rennes qui a explosé sans doute avec les derniers gros contrats, les joueurs importants qui sont arrivés. Donc peut-être que Rennes fait attention à. La scène historique de Rennes, François Pinault, il n'a jamais été connu pour ses dépenses, à part au début de son arrivée, où là, c'était un peu l'open bar. Mais depuis, quand même, c'est un club qui fait gaffe.
Quelque chose à ajouter, messieurs?
Moi, je trouve ça dommage que Mbaye Niang n'aille pas à Saint-Etienne, uniquement sur des critères purement sportifs. Ça fait pour moi 10 ans que l'AS Saint-Etienne a besoin d'un vrai attaquant capable de performer dans la surface de réparation. Tu t'aperçois qu'à chaque fois qu'ils investissent sur un mec, ça marche pas, et qu'au final, c'est toujours Romain Mouma, quand il est pas blessé, qui arrive à mettre des buts dans cette formation stéphanoise.
Oui, mais si le problème est aussi
pour elle,
mais aussi pour
Saint-Etienne. Mbaye Niang était un profil qui aurait fait beaucoup de bien à Saint-Etienne.
Mais Dominique Cévrac nous l'annonce, il restera donc.
Je vous parle sportivement parlant. Oui. Après, le mercato, il n'a pas commencé hier.
Mais il y a une histoire d'agents qui ont demandé, deux agents qui étaient ses agents avec qui il n'était plus, qui ont demandé quand même une petite com parce que le contrat se terminait à la fin de l'année. Et Saint-Etienne a dit on va pas raquer pour tous les agents de la Terre.
Un tir au but qui m'intéresse beaucoup, car là, il va falloir être solide.
Carla Bruni
Non, mais attention, on sort du terrain.
Comme les corners brossés de.
Non. Attention. Prénom José.
Anigo.
Nom de famille Anigo.
Oui.
Ex-directeur sportif de l'OM, mis en examen, soupçonné d'association de malfaiteurs en vue d'extorsion et de crimes, dans le cadre du transfert peut-être de l'IADJI, formé à Marseille et qui a pris la direction de Lille. Qui a un avis?
Alors, ça m'arrange d'avoir déjà tiré, moi.
Qui a un avis?
Je trouve que la justice marseillaise...
Oula, ça tremble, hein, ça tremble.
Il a mis un peu de temps à découvrir les lésions dangereuses de José Anigo, que je ne connais pas. Les lésions dangereuses, je ne sais pas si elles sont avérées ou pas.
Ça savonne même, hein.
Le truc, elle a mis du temps, parce que ça fait quand même de nombreuses années que dans le milieu, on sait que José Anigo a des relations
dans
explosives.
Dans le milieu, justement.
Voilà, il a des relations avec le milieu. Donc,
mais il s'en est jamais caché.
Il s'en est jamais caché. Donc c'est pour ça que c'est des avis différents. Voilà. Donc, qu'est-ce que faisait la justice
pour
pas mettre son croisé au moment où Vincent Labrune.
C'est vrai qu'il a pris
sommet.
Ses responsabilités, comme on dit. Il a pris ses responsabilités.
Ouais, mais c'est poteau sortant.
J'ai renvoyé le ballon du côté de la justice.
Ils sont restés dans le rond central. Ils ont repris le ballon, ils ont laissé Cévrac se débrouiller. Bravo,
Florian, José Anigo, il s'est jamais caché de ses amitiés d'enfance.
On revient au foot.
Oui.
La légende tchèque Panenka, contaminé par le coronavirus, est à Grave, hospitalisé depuis 3 jours. Alors Panenka, pour ceux... Panenka, c'est la spécialité, c'est un pénalty. Il prend le ballon par-dessous, par le coup de pied.
C'est lui qui a créé la fameuse Panenka.
Voilà. Et pour les plus jeunes, il a donné son nom
à cette façon de dire.
Et pour les plus jeunes, Zidane, par exemple. Voilà. Souvenez-vous de Zidane en 2006.
Oui.
Voilà.
Sur la barre transversale.
Un geste de classe ou un geste irrespectueux?
Un geste de classe. Parce qu'il faut rappeler une chose, c'est que quand ça a éclaté aux yeux du monde en 1976, à l'Euro 76, c'était lors de la fameuse finale contre l'Allemagne qui se joue au tir au but, la seule finale d'un championnat d'Europe qui se joue au tir au but. Et là, tout le monde découvre cette façon de tirer. Mais lui, Panenka, dans le championnat tchèque, mais c'était de l'autre côté du rideau de fer à l'époque, dans le championnat tchécoslovaque, il le faisait déjà. Et donc, ça a été une découverte pour les Occidentaux, mais pas pour les gens de son pays. Et en fait, ce coup de génie, lui-même, il est incapable, parce que j'ai eu l'occasion de le rencontrer il y a quelques années, mais lui-même, il sait pas exactement comment c'est venu. Et en fait, c'est à l'entraînement, il s'amusait avec un copain, en l'occurrence, je crois que c'était le gardien de la sélection, Ivo Victor. Non, le gardien remplaçant de la sélection qui était dans le même club que lui, au Bohemians de Prague. Et donc, c'est avec ce gars-là, il dit, tiens, regarde, je vais te la mettre comme ça. Et c'est un jeu, en fait, c'est devenu comme ça. Et en finale de l'Euro 76, donc, face à Sepp Maier, qui était le gardien de l'équipe d'Allemagne, et un des meilleurs gardiens du monde à l'époque, si ce n'est le meilleur, il tente ça. Et du coup, effectivement, ça rentre dans la légende.
Il y a peu de joueurs qui ont laissé leur nom à un geste du football.
Si, il y a Madjer.
Arconada. Ouais. Donc c'est quand même...
Les meilleurs sont dans Fait le match, quand même. Hein. Parce que l'histoire est
super.
Sur Anigo, il y a pas de risque. Sur Panenka, il n'y a pas de risque.
Mais ceci étant, le fait qu'on pose la question, moi, je trouve ça déplorable. En fait, c'est dû à une fierté. Non, mais
irrespectueux pour le gardien de but.
C'est une fierté mal placée des gardiens. qui n'ont jamais supporté parce qu'ils ont l'impression d'être humiliés par le fait de subir une Panenka. C'est un geste technique hyper osé.
Et celui qui la commet
a beaucoup plus de chances de passer pour un idiot que celui qui la prend.
Et si tu la rates, tu passes vraiment pour un gros crétin.
Exactement.
Mmh. Football féminin.
Oui.
Oui.
Dossier à l'étude. Cinq changements également pour le football féminin. Raisonnable ou pas ?
À partir du moment où on cherche la parité dans le monde en général, pourquoi ne pas accorder ces cinq changements également aux filles ? Après, ça dépend, la problématique est la problématique d'effectif.
Bah oui.
Pour faire cinq changements, il faut avoir un gros effectif. Si vous avez une équipe féminine...
Il y avait du sous-texte dans la question.
Oui, mais moi je trouve que sur le papier, de toute façon, il faudrait que les règles soient les mêmes pour les filles et les garçons.
C'est un vrai débat. Il y a une hypocrisie autour de cette question-là, parce que... La longueur du terrain. Alors effectivement, les structures sont différentes.
Irrespectueux pour la question.
Non, mais c'est
Panenka. Il y a une vraie hypocrisie avec cette question.
Je crois qu'il attaque le chef.
Je suis pas sûr qu'il viendra la semaine prochaine.
Non, mais globalement sur le débat autour de la parité sur le foot féminin et masculin, il est évident que le jeu serait plus dense et plus intéressant sur un terrain aux dimensions plus réduites pour
t'es en train de dire que le football féminin peut pas jouer sur le même terrain que les hommes.
Et réduire les cases aussi pour les gardiennes.
Si. Mais je pense que le jeu serait plus dense effectivement sur un
Florian Gazan a parfaitement compris la question, c'est par rapport aux effectifs.
Bien sûr. Moi, je décrypte parfaitement le Christian Olivier. Voilà.
On fait le match terminé.
Dans le même esprit.
Déjà. C'est déjà un plaisir.
Oui.
On se retrouvera très bientôt. Ça va prochain, tous les cas. Pour certains, peut-être d'entre vous. Merci Dominique Sévrac du Parisien aujourd'hui en France. Merci Florian Gazan de RTL. Merci Xavier Barré pour ces belles histoires concernant Panenka. Merci Philippe Sanfourche. Prochain rendez-vous sport demain, 19h30, 20h, on fait le sport avec nos amis justement du Parisien aujourd'hui en France. Et 20h, 23h, RTL Foot, France.
Et un petit match.
Portugal. Merci à Lucas Dindeleu pour la réalisation et surtout merci à vous tous de votre fidélité. À samedi prochain. Ciao, ciao.
RTL, on refait le match.